Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mon père me donnait 1000 euros par mois. Il fallait que dedans, tout rentre. Et du coup, j'ai commencé à faire mes comptes en m'intéressant. Alors, je suis allée voir sur Internet, je suis allée lire des bouquins, etc. sur comment faire un tableau de compte, voir où va mon argent à la fin du mois, où est-ce qu'il y en a trop, où est-ce qu'il n'y en a pas assez, etc. Et j'ai fait mes comptes comme ça pendant une dizaine d'années, vraiment à l'euro près.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Trois vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent, comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Lucie, bienvenue.
Et merci beaucoup, merci de me recevoir.
Ben non, merci à toi de m'avoir envoyé spontanément un message comme ça.
C'est ça, la bouteille à la mer, je suis très contente que tu l'aies rattrapé.
Ok, pour venir me parler de ton histoire d'argent.
Oui.
Tu m'as expliqué que ce podcast avait eu un effet étonnant sur toi.
Oui, en fait, j'écoute énormément de podcasts depuis des années. Et la plupart, je me dis, j'apprends des choses et je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours mise à la place des intervenants en me disant, moi, je n'aurais pas autant de choses à dire, que ce soit histoire de daronne ou... Bon, je ne suis pas daronne, mais je veux dire,
pour le
dans,
coup.
dans les podcasts en général, me dire que ma vie ne pourrait pas apporter grand-chose aux autres. Et histoire d'argent, ça a changé beaucoup de choses. Déjà parce que moi-même, ça m'a questionnée. Je me suis beaucoup plus analysée alors que jusque-là, je ne me posais pas de questions. L'argent, je vivais avec, j'en faisais des choses ou pas, et je ne me posais pas de questions. Le fait d'écouter ce podcast, ça m'a fait me poser des questions, ça m'a fait réfléchir à quel est mon rapport moi-même à l'argent, et c'est ce que je te disais aussi, l'épisode avec Sarah, avec ses laveries et le bateau, tout ça, c'était un épisode qui m'a fait comprendre que, en fait, je peux être cette personne qui a un rapport un peu bizarre et qui fait sa vie comme elle peut, et en fait, qui se lance et qui se prend un petit peu au sérieux et qui fait quelque chose de sa vie, quoi.
C'est ce que tu as fini par faire, mais on va en parler.
Je suis en train.
Oh là ! Je t'ai au bon moment, alors, je crois.
Alors, je me suis demandé, parce que je me suis dit, si ça se trouve, une fois que je suis auto-entrepreneur, que le truc roule, il y aura plus de recul et plus de choses à dire. Mmh. Et en même temps, je me dis que là, c'est un moment un peu charnière et ça peut être intéressant aussi.
Toutes les périodes sont intéressantes.
Voilà.
Potentiellement, dans un an, ça sera une autre histoire.
Exactement.
Et c'est cool de t'avoir maintenant. Mais avant ça, je vais te demander, si tu écoutes le podcast, tu connais les deux premières questions.
Je m'y attends, oui.
Et la première question, c'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Alors pour moi, c'est la liberté. La liberté de choisir entre deux options plus ou moins chères et la liberté aussi de l'indépendance par rapport aux parents, par rapport à l'État, par rapport au patron aussi, pouvoir dire non quand quelque chose ne me convient pas ou qu'un métier ne me convient pas, bon, bah, je change, pas grave.
L'indépendance par rapport à l'État.
Par rapport à l'État, ouais. C'est-à-dire de ne pas avoir besoin de demander d'aide.
Ok.
Voilà, parce que j'ai, pardon, j'ai eu beaucoup de périodes de chômage. Et j'ai aussi demandé le RSA une période, ce genre de choses. Là, par exemple, je suis dans un appartement où il faudrait que je touche les APL, mais c'est une telle galère de joindre la CAF que vraiment, je préfère avoir de l'argent pour m'éviter ce genre de démarche administrative.
Ok, voilà. Je n'avais pas le truc d'indépendance.
Oui,
bah
alors l'État, oui.
C'est je pas... me disais peut-être que, je ne sais pas, tu me disais, de cela, je ne paye pas mes impôts.
Non, pas du tout. Non.
Je suis Elon Musk.
Non, en fait, je sais que c'est important de payer ce genre de choses. C'est un peu comme le chômage. Je me dis, c'est grâce à bah, moi, quand j'ai bossé, j'ai cotisé, mais aussi aux autres qui bossent, qui cotisent, que j'ai pu avoir le chômage. Donc, non, je participe.
Ok.
Je suis une bonne citoyenne.
Ok. C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent ?
Alors, j'y ai pensé aussi. Et j'ai deux souvenirs, en fait. Un avec ma mère et un avec mon père. Le premier souvenir avec ma mère, c'est que quand on était petit, on habitait dans une maison avec un jardin. Et pour protéger ses rosiers, elle faisait la chasse aux limaces. Et elle avait demandé à moi et à mon frère de trouver les limaces dans le jardin. Et elle nous donnait 10 centimes de francs à l'époque. 10 centimes par limace trouvée. Et on passait nos journées à chercher les limaces et à avoir, du coup... Bah, des fois 3, 4 euros et on s'achetait des bonbons après l'école avec ça, quoi.
Okay.
Donc c'était ça, c'était déjà comme un petit salaire, quoi.
Il fallait travailler pour avoir de l'argent, quoi.
Voilà, exactement. Mais bon, comme travail, c'était plutôt cool, hein, les limaces.
Bon, bah, ça dépend, tu peux peut-être détester l'image. J'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire, moi jamais pour 10, mais même pour 10 000 euros, j'irai chercher des limaces, je sais pas.
Mais je pense que quand t'es petit, tu te poses pas la question, parce que ça, c'était...
T'avais quel âge ?
Ouais, je pense que j'avais 6-7 ans.
Ok.
Donc, soulever les cailloux pour trouver les limaces en dessous, tu te poses pas la question de est-ce que c'est sale, qu'est-ce que c'est, pourquoi.
T'aurais pu avoir peur des limaces.
Oui, non, ça va.
Okay. Et l'autre souvenir avec ton père ?
Alors, le souvenir avec mon père, c'est qu'en fait, il manquait jamais d'argent. Donc, du coup, mon père, on n'en parlait pas et il m'emmenait une fois. Alors, c'est très très rare, on faisait pas trop de shopping, tu sais, en centre commercial ou trucs comme ça dans ma famille. Par contre, une fois tous les 3 mois, on allait aux Galeries Lafayette et il m'achetait une pièce très très chère. Pour moi, à l'époque, dans ma tête, c'était très cher. Je pense que maintenant, ça serait l'équivalent d'acheter un jean à 200 euros.
Voilà. Ce qui est un jean très cher, oui. 200 euros.
Surtout quand tu es ado et que tu n'arrêtes pas de grandir et que tu changes de vêtements tous les 6 mois. Voilà, mon père m'achetait tout d'un coup un vêtement très cher comme ça. Et je le voyais pour lui-même aussi s'acheter des vêtements chers.
Et ça crée quoi chez toi ?
Et ben en fait, sur le moment, je ne me rendais pas compte de ce que c'était. J'avais l'impression que c'était normal. Et c'est plutôt maintenant, avec du recul, que je suis choquée de me dire que c'est possible que ça m'ait paru normal alors que maintenant, je n'achète plus des jeans à 200 euros. Ce n'est pas possible. C'est complètement hors de mes habitudes, quoi.
Hors de ton budget ?
Aussi, ouais. Oui. Enfin, je pourrais prioriser les jeans et puis mettre 200 balles, mais non. Ouais, c'est pas...
Ok. Mais est-ce qu'il faisait ça aussi pour, je sais pas, se vanter d'avoir de l'argent auprès de toi, ou alors c'était juste un truc très naturel pour lui ? Tu vois ce que je veux dire ?
Pas du tout vantard. Ouais. C'était très naturel pour lui et je pense que c'était aussi me donner le goût des belles choses, des beaux produits, de la belle matière, de la belle coupe. Et du coup, un peu, je pense qu'il prenait ça comme un pendant de son éducation pour nous. Okay. C'est-à-dire, alors, on prend le temps, viens, je te montre. Regarde comme c'est joli, essaye-le, tu vois.
Donc
comme ça tombe et tout ça.
Ouais. Il avait vraiment ce discours-là aussi à côté.
Exactement.
Quoi.
Okay, d'accord. Exactement. Et donc, c'était m'ouvrir les yeux sur les belles choses, sur la qualité et tout ça.
Okay.
Quel que soit le prix à l'époque.
Et de ce fait-là, il ne mettait jamais ça en rapport avec l'argent. C'était juste, tiens, c'est les belles choses, et il ne te disait pas, et ça coûte autant.
Oui, pas du tout. Okay, c'est moi qui avais ce regard-là, et plutôt a posteriori.
Ok.
Voilà.
Et qu'est-ce que ça te fait dire aujourd'hui ? À quel point tu as la sensation que ce souvenir-là, t'as construit ton rapport à l'argent en grandissant ?
Il y a deux choses. Il y a la frustration de me dire que je ne peux plus me permettre, en fait, que moi, en tant qu'adulte, je ne peux pas me permettre de m'offrir les aussi belles choses que j'aimerais avoir par rapport à ce qui m'a transmis.
Dans ton message, tu m'as mis dégringolade de classe.
Ouais, enfin, dégringolade.
T'as utilisé ce terme dégringolade. J'étais là, ok, dégringolade.
Oui, bah, enfin, c'est un peu long à expliquer, mais on en parlera. Donc, il y a ce côté-là et aussi l'idée que je n'ai pas assez profité de ça. Il y a toujours une espèce c'est encore de la frustration d'ailleurs, de ne pas profiter assez de tout ce que mon père avait à m'enseigner à l'époque. Mais pas spécialement sur l'argent finalement, plutôt sur la manière de vivre, la manière de voir les choses, de se dire que moins mais mieux, c'est voilà, la qualité plutôt que la quantité, ce genre de choses. Voilà, j'aurais voulu passer plus de temps avec lui peut-être pour plus apprendre ce genre de choses.
Ton père qui n'est plus parmi nous
si.
Aujourd'hui
si, okay. Si, il est toujours là. C'est juste qu'à l'époque, il avait très peu de temps parce qu'il était profession libérale. Et du coup, les moments qu'on passait ensemble étaient de grande qualité, mais très rares. Et donc, ce genre de choses, de shopping, tout ça, voilà, je te dis, une fois tous les 3 mois, sa parole est d'or, mais du coup, c'est très rare d'avoir une parole de lui. Mmh. C'était un petit peu ça.
Et aujourd'hui, donc... c'est pas un truc que tu pourrais faire en tant qu'adulte, de te rapprocher de lui pour lui demander des conseils, etc. Peut-être alors, moins en tant qu'enfant, tu vois, mais plutôt en tant que d'adulte à adulte, quoi.
Maintenant, je lui demande plus trop, je suis dans l'observation.
Ok.
Et d'ailleurs, il continue, il garde toujours ce même état d'esprit qu'à l'époque. Donc j'observe, quand je passe du temps avec lui... J'observe à fond. Okay. J'essaie de tout prendre.
Quand tu dis ton père était profession libérale, il était médecin ?
Non, il l'est toujours d'ailleurs, il travaille toujours. Il est expert pour les assurances en bâtiment.
Ok.
Voilà.
D'accord. Et donc, il gagnait bien sa vie ? Il gagnait de l'argent ?
Il gagnait très très bien sa vie quand j'étais enfant. Maintenant, un peu moins parce qu'il bosse un peu moins. Et surtout, lui, c'est pareil, la liberté, c'est très important pour lui. Et du coup, dès qu'il y a une contrainte, un peu, bah, il vire ses clients, il sélectionne, il fait un petit peu... comme il préfère, quitte à gagner un peu moins. Quoi.
Et c'est un truc qu'il faisait, tu crois, quand t'étais plus jeune, quand il était plus jeune Ou alors il prenait le plus d'argent possible?
Je pense que non, à l'époque, il prenait le plus d'argent possible parce qu'il avait 2 enfants et qu'il fallait, il fallait gérer la famille. Quoi.
Ok. Ok, donc tu m'as... Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que tu me parles de dégringolade de classe dans ton message ?
Alors pour moi, la dégringolade, c'est pas mes parents qui dégringolent, c'est moi par rapport à mes parents.
Ouais.
C'est-à-dire que donc, mes 2 parents sont ingénieurs. Ils ont... Donc pour tous les deux, les études, c'était très important. Moi et mon frère d'ailleurs, on m'a matraqué pour me dire qu'il fallait absolument que je passe un bac S. Résultat, j'ai triplé mon bac. J'ai pas réussi à l'avoir.
Je savais même pas que c'était possible.
Ah bah si, si. Donc okay. 3 fois de suite, j'ai passé 2 fois mon bac S. J'ai raté les 2 fois. Et la dernière année, j'ai passé un bac ES en candidat libre et je l'ai eu. Mais vraiment, il y avait un côté de moi où c'est pas vraiment le bac si c'est pas le bac.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Yes.
Ah ouais?
Donc j'avais le bac, mais c'était pas un bac assez bien.
Mais donc, tu passais le bac S pour faire plaisir à tes parents, alors ?
Pour rendre fier, pour me rendre fier, pour les rendre fiers, pour...
Pour les rendre plutôt fiers que de te rendre fier toi, non ?
Bah, j'aurais été fière de les rendre fiers, je pense. Oui. Et puis, il y avait un côté aussi où, si je faisais ça, il y avait un espèce de prolongement. C'est-à-dire que j'étais encore à la hauteur de la famille.
Ah.
Parce que 2 parents ingénieurs, voilà, bon, il ne faut pas trop... faire n'importe quoi derrière. Quoi.
Ok, donc petite pression, quoi.
Petite, vraiment.
Euphémisme.
Et alors, pour la petite histoire, donc là, maintenant, j'ai 35 ans. Il y a 2 ans, pendant le Covid, j'en ai profité, j'ai passé le bac S et je l'ai.
Non.
Donc, je suis titulaire de 2 bacs.
Mais, attends, t'as passé le bac S à donc 30 balais... 30,
à 33, ouais.
Pour
arrêter d'en parler au psy. Vraiment, c'était ça, parce que je me suis rendu compte que c'était une frustration que j'avais depuis toujours de me dire je suis capable d'avoir le bac S, pourquoi je l'ai pas ? Bah, j'ai qu'à le passer en fait. Et voilà.
Et avec le recul, pourquoi tu crois que tu l'as pas eu quand tu avais genre 17-18 ans ?
Parce que j'étais occupée à bien d'autres choses que les études.
Comme quoi par exemple ?
Comme les garçons, comme je sais pas, la lecture, j'étais très rêveuse. Et j'étais pas du tout dans faire les devoirs, apprendre des trucs par cœur alors que ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, j'avais des très bonnes notes dans les matières que j'aimais bien et des très mauvaises dans ce que j'aimais pas.
Ok, et t'aurais pas pu passer un bac L en ayant par exemple eu une mention très bien parce qu'en fait t'aurais adoré.
Peut-être, peut-être.
Mais c'était pas possible dans la culture familiale, c'est ça ?
Voilà, je me laissais même pas le choix. Et même okay. ES, c'était...
Bah ouais, c'est un sous-bac. Non, je déconne, moi j'ai eu ES.
Bah voilà,
pour moi c'est
aussi,
le bac le plus dur en plus.
Alors bon, moi j'ai pas trouvé que c'était le plus dur.
Bah,
mais...
Pour moi c'est le bac le plus dur. Parce que t'as des maths, t'as de l'éco, il faut savoir écrire, il faut savoir...
Il faut savoir un peu tout faire,
Il faut savoir un peu tout faire.
C'est ça.
Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est le plus dur, parce que pour moi c'est le plus complet.
Ah oui, alors que pour moi, le S, c'était plus dur parce qu'il ne fallait pas savoir tout faire. Il fallait savoir faire peu de choses, mais très bien.
Ouais.
Et alors, le très bien, moi, c'était trop moi, vu que je n'étais pas...
De toute façon, ça n'existe plus maintenant, le bac S, bac S, tu vois, on est vieux.
On parle entre vieux, là.
Voilà, exactement. Encore plus vieux que toi, moi. ok, donc, tu avais vraiment cette pression-là. Et en fait, ton objectif d'avoir ce bac S, c'était pour faire quoi après ?
Et alors, sur le moment, j'avais un peu envie d'être architecte.
Ok.
Alors, ce qui est marrant, vu que mon père travaille justement dans le bâtiment.
Ouais.
Donc, il y avait un côté un peu... c'était le truc qui m'attirait et qui aurait été dans la continuité, on va dire. Mais donc, forcément, en triplant mon bac, j'ai pu abandonner cette idée. Hein, parce que déjà, il y a un âge pour rentrer dans les écoles d'architecture. Et puis, il faut le bac S, c'est tout, quoi. En plus, à cette époque-là, mon père me dit « Écoute, il faut que tu trouves des études qui durent 3 ans maximum. » Donc, parce que je ne vais pas pouvoir te payer un appartement sur Paris, tes études, etc. pendant plus de temps que ça. Donc, tu trouves un truc en 3 ans. À l'époque, gros malentendu entre lui et moi. C'est-à-dire que moi, je comprenais dans 3 ans, soit t'es SDF, soit t'as un métier. Alors que lui, de son côté, il se disait « T'as 3 ans pour créer quelque chose. Et si ça marche bien, je continue à t'aider. »
Ah.
Et moi, j'avais pas compris le « je continue à t'aider » derrière. Donc, je me dis « Ok, j'ai 3 ans. En 3 ans, on peut faire quoi ? Un BTS ou une licence ?» Du coup, licence, je me dis « Il n'y a pas de métier derrière. Il faut faire un master, il faut faire quelque chose. » Donc, je vais choisir dans les BTS. Je regarde la liste des BTS et je me dis « Qu'est-ce qui a l'air d'être le plus dur ?» Je ne me dis pas « Qu'est-ce qui m'attire le plus ?» Je me dis juste « Qu'est-ce qui a l'air d'être le truc pour les plus intelligents ?» Pour rattraper toujours ce complexe du bac S. C'est-à-dire, je me dis, j'ai pas le bac S, il faut que je fasse le truc le plus scientifique possible dans les BTS.
Okay.
Et donc, je choisis opticien. Donc, je fais une année de prépa.
T'as pas du tout envie d'être opticienne ?
Pas du tout.
Mais enfin, okay. D'accord.
Et donc, je fais une année de prépa parce que j'ai pas le bac S, donc pour rattraper le niveau des bac S, puis mes 2 années d'opticienne. Pendant ces années-là, je passe un BEP monteur-vendeur, où c'est un truc qu'on nous fait passer comme ça en candidat libre pour s'entraîner, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir le BTS à la fin. Et le BTS, accroche-toi bien, je l'ai passé 5 fois et je ne l'ai pas. Je l'ai passé 5 années de suite.
Mais enfin.
Voilà, je lâche pas, hein. Persévérante, mais j'ai jamais réussi à l'avoir. Et en fait, au bout de 5 ans, je perdais mes notes des premières années, donc j'ai lâché l'affaire.
Donc attends, ça veut dire que tu as été étudiante jusqu'à genre 28 ans.
Alors...
Non, j'exagère, mais...
Ouais, peut-être 24, 25, ouais.
Ok.
Mais pas vraiment étudiante, parce qu'à chaque fois, c'était en candidat libre. C'est-à-dire que j'arrêtais l'école parce que j'en pouvais plus. Je travaillais à côté, tout en révisant mes cours pour, à la fin de l'année, passer à nouveau le BTS.
Mais qu'est-ce qui faisait que t'échouais ?
Alors, à l'époque...
T'as pas l'air d'être idiote, hein ? Non, mais...
Pour le BTS, c'était que je faisais des crises d'angoisse.
Voilà, j'allais te dire, est-ce qu'il y avait un truc ?
Il y avait... j'ai fait de la sophrologie, j'ai testé plein de trucs. En fait, il y a une matière dans laquelle j'étais excellente. Et quand j'arrivais devant ma copie, j'arrivais plus à respirer, je tombais dans les pommes. Mais vraiment, c'était horrible. Et du coup, j'avais 0, éliminatoire.
La peur d'échouer.
La peur de pas réussir alors que j'étais censée réussir. Ouais. Voilà. Donc du coup, okay. Bon, bah, l'optique... à la poubelle. j'ai fait tout ça un peu pour rien. Après, bon, ça m'a appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. Ouais. Hein,
mais 5 ans.
5 ans, ouais.
Mais la persévérance.
Exactement, ouais. Je lâche pas.
Ok.
Alors bon, je peux pas maintenant rattraper ça à 35 ans parce qu'il faudrait repasser toutes les épreuves et c'est pas possible.
Mais pour le coup...
Mais si j'avais pu, je pense que j'aurais essayé encore, ouais.
Ah ouais ? Ok. T'en as parlé avec ton père ? Parce que, est-ce que c'est... Est-ce que, Enfin, t'en as peut-être parlé même avec tes parents, parce qu'ils te collaient une pression particulière.
Alors, pour moi, il y avait une pression sous-entendue, un peu implicite. Et quand j'en parle avec eux, en tout cas par rapport au bac S, mon père dit « mais pas du tout ».
Ah.
Pas du tout. Il n'y a pas de problème.
Est-ce que c'est un pas du tout de mauvaise foi de papa, tu vois ? Comme ils peuvent, parfois les darons peuvent faire, ou les daronnes peuvent faire de la mauvaise foi, ou alors il est convaincu que... Tu vois ce que je veux dire ?
Il a l'air convaincu. Je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou pas.
Okay.
Et en fait, c'est un sujet où même maintenant, si on en parle, ça va partir en vrille. Donc, ouais, sujet tabou. Moi, je ne parle plus des études, je ne parle plus de ce genre de choses-là. Et en plus, mon frère a suivi un peu ma lignée, donc...
À ton frangin aussi, il a
eu
du mal.
Ouais. Okay. Il a 5 ans de moins et lui, oui, il a eu, je crois qu'il a redoublé. Il est allé dans une école privée à Paris. Enfin bon, il y a eu tout un truc de, il faut pas que mon deuxième enfant échoue aussi. Et mais il se rend pas compte en fait qu'il nous a mis cette pression là, parce qu'en fait, comme il parle peu, le peu qu'il dit, c'est important pour nous. Et dans ce qu'il dit, il y a le côté, tu peux faire tout ce que tu veux sauf coiffeur et femme de ménage. Donc déjà, tu dis bah pourquoi pas. Ah bon, je peux pas être coiffeuse, bon.
Pourquoi il t'a dit ça ?
Parce que pour lui, c'est deux métiers, deux sous-métiers. C'est tant que tu fais pas ça, ça me va. Mais du coup, ça, pour nous, ça implique que plus on fait un truc d'intellectuel, mieux c'est. Donc forcément, on essaie de faire le mieux. Et ah, qu'est-ce qui est le plus intellectuel selon papa ? Le bac S ? Bon, bah, il faut faire bac S. Comme il y a une hiérarchie pour lui, il fallait qu'on suive, enfin en tout cas pour le rendre fier, il fallait qu'on suive cette hiérarchie.
Ok. Je vous invite à aller réécouter ou écouter l'épisode avec Christian Junot qui parle de déloyauté vis-à-vis de... C'est le tout premier épisode, si jamais vous tombez sur ce podcast. Tout premier épisode du podcast avec Christian qui parle de déloyauté vis-à-vis de ses parents.
Mais c'est très dur. Hein.
C'est dur de faire cet exercice-là.
Surtout quand on a 20 ans. C'est... Enfin déjà, là, à 35, moi, j'arrive pas.
T'arrives toujours
couper,
pas aujourd'hui
oh, pff, non. Non, non. C'est-à-dire que là...
Oh, pff, vous n'avez pas vu. Je sais qu'il y avait oh, pff, n'importe quoi, non.
Là, je suis en train, du coup, de monter ma boîte. Et ça reste dans un métier que, je sais, pour lui, vaut pas grand-chose. Donc, en fait, je fais quelque chose de grand dans un domaine pas grand pour lui. Et ça me ronge un peu. Je me dis, j'aurais préféré monter ma boîte dans quelque chose qu'il admire. Mais il le fait pas.
Okay.
Et j'ai 35 ans. Et oui. Peut-être qu'à 50 ans, bon, j'aurais coupé le cordon, je ne sais pas.
Bon, ça peut durer toute ta vie. Hein.
Oui, ouais,
aussi. Tu peux faire toute sa vie, pour le coup. Mm. Ok. Enfin non, même toute ta vie, parce qu'il y a, oui, y a vraiment des liens qui restent après, même après la mort de ses parents. Quoi, des liens de loyauté. C'est dur. Ok. Et j'imagine qu'avec... cet échec de ton parcours scolaire va avec l'argent qui... Enfin, suit l'argent ou... Alors, ou alors c'est complètement décorrélé pour toi.
À l'époque, tu veux dire comment ça se passait à cette période-là ?
Parce qu'il y a des gens qui ratent scolairement, entre guillemets, et qui en fait finissent par trouver des métiers qui leur rapportent beaucoup d'argent et qui viennent, comment dire, au contraire, faire de l'argent un facteur ou un... Oui, c'est ça, un facteur de réussite, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, ok, bah, j'ai raté à l'école, mais en gros, ma façon à moi de réussir, peut-être aux yeux de papa, tu vois, ça va être de devenir très riche.
Alors, pour moi, l'argent, à ce moment-là, n'a pas cette importance-là parce que j'ai l'insouciance de mon enfance que l'argent n'est pas un problème, que l'argent, il y en a. J'ai été tellement dans c'est facile, s'il y a besoin, l'argent est là, que du coup, je me disais plus... que j'ai raté le fait d'avoir un métier prestigieux, d'être admiré et ce genre de choses, plutôt que de « je vais gagner plein d'argent ». C'est-à-dire que si j'avais pu être architecte et être au SMIC, moi, j'étais la plus heureuse. Parce qu'en fait, c'est pas grave de pas avoir beaucoup d'argent. Par contre, c'est très important d'avoir une bonne position, d'être respecté, d'être admiré et tout ça. Donc à l'époque, non, c'était pas un but d'avoir de l'argent.
Ok. Aujourd'hui ?
Aujourd'hui, beaucoup plus.
Okay.
En fait, du coup, quand je termine ce BTS que je n'ai pas, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été à l'accueil d'une pizzeria, j'ai travaillé dans des petites boutiques qui vendaient des fringues l'été, ce genre de choses. Et je me retrouve...
Parce que pour le coup, ton père avait fini par mettre sa menace entre guillemets exécution. C'est-à-dire, il avait fini par ne plus te payer tes études.
Ouais, c'est ça. Et en même temps... ça m'arrangeait bien de prendre mon indépendance aussi.
Okay.
C'est-à-dire qu'il fallait que je travaille. Je suis retournée chez ma mère, habitée chez ma mère. Donc, on a lâché Paris. Ma mère qui m'héberge, moi qui cherche un boulot, qui travaille de temps en temps, et puis qui finalement arrive à travailler assez pour toucher le chômage, puis avoir mon appart à moi, alors même si c'est tout petit et que c'est en région parisienne, voilà, je commençais à créer ma vie à moi et être indépendante.
Tes parents sont séparés ?
Oui, à cette époque-là, ils se séparent quand j'avais 16 ans.
Ok.
Voilà. Et, mais ils ont toujours eu une très bonne relation les deux et ils habitaient dans le même coin, donc on restait très proches comme famille.
Ok.
Voilà. Mais du coup, à ce moment-là, je rentre chez ma mère. Et du coup, j'enchaîne tous ces petits boulots-là.
Ta mère gagne bien sa vie aussi ?
Alors, ma maman, c'est particulier. Donc, elle a fait des études, elle est ingénieure, tout ça. Mais elle a tout lâché pour être prof de piano particulier.
Ok.
Et aussi, à une époque, beaucoup, elle peignait. Donc, elle a fait des vernissages, des expos, des trucs comme ça avec des peintures. Donc, c'est un peu une artiste. Je pense qu'elle a voulu faire ingénieure, tout ça, pour être tranquillisée. Et à côté, se dire, non, en fait, dans la vie, ce qui est le plus important, c'est de s'amuser, quoi, c'est de prendre du plaisir.
Donc, elle avait ce métier-là dans la journée, et en fait, à côté de ça, elle peignait, c'est ça ? Ou alors, elle a à un moment donné juste tout arrêté et...
Elle faisait les deux en même temps.
Elle faisait les deux en même temps.
Elle faisait les deux en même temps, et maintenant, il n'y a plus que le piano.
Ok.
Et elle continue à faire ça, même en étant séparée de mon papa, et voilà, elle est super heureuse.
Tu peux très bien gagner très bien ta vie en étant prof de piano, hein, je crois.
Oui, mais bah, je pense que c'est raisonnable ce qu'elle gagne, mais elle est contente en tout cas de sa vie comme ça. Justement, elle a gardé ce côté de quelle que soit la somme d'argent qu'on récupère, ce qu'on fait est le plus important et le plaisir qu'on en retire.
Et tu sais aujourd'hui pas combien tes parents gagnent ? Déjà eu cette discussion ?
Si, oui, je sais combien ma mère gagne, je ne sais pas combien mon père gagne.
Okay.
Non, je sais que c'est moins qu'avant, mais je ne sais pas combien.
Okay.
Voilà. Et je sais que ma mère, bah, en fonction des périodes où je travaille ou pas, on est à peu près au même niveau. Donc, de temps en temps, je gagne plus qu'elle. De temps en temps, c'est elle qui gagne plus que moi.
D'accord.
Voilà.
Donc, à un moment donné, tu racontais justement que tu avais fait des petits jobs, etc. Gagner de l'argent. Quoi,
exactement. Et je ne sais pas si je peux citer les marques.
Tu peux.
Ou les enseignes, ouais. Donc, j'ai travaillé à un moment chez La Halle aux chaussures pour un job de remplacement de quelqu'un qui était en vacances l'été. Donc, c'est juste 2 mois. Et à la fin de mon contrat, je rencontre un directeur régional qui passe par là et qui me dit « Vous êtes mauvaise vendeuse ?» Alors je dis « Ah mince, ah bon ?» Et puis je rigole, moi je m'en fiche un peu, c'est un petit boulot comme ça. Il dit « Par contre, vous feriez une très bonne manager, vu votre caractère. » Alors je dis « Ok. Ça vous dirait de devenir adjointe dans un magasin ?» Alors je dis « Bah oui, pourquoi pas ?» Et en fait, j'ai passé plusieurs années à la Halle aux chaussures dans 13 magasins différents fait en Ile-de-France. Pour finir, adjointe dans le 3e magasin France, je crois, à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, énorme structure, il y a 50 salariés. Enfin, c'est un truc, un gros magasin qui fait travailler énormément. J'ai plus de vie personnelle du tout. Je donne tout pour le boulot, vraiment, mais beaucoup trop. Hein, ma vie, mon corps, tout ça, physiquement, je suis épuisée. Mais je donne tout en me disant, c'est là ma chance d'avoir une évolution qui fait que j'ai un poste important. Et dans ma tête, je me dis, l'objectif, c'est de devenir responsable, tout court. Malheureusement, à un moment, ma responsable elle-même, donc elle qui était une nana qui avait travaillé chez Carrefour, donc au niveau management, elle était au top, c'est elle qui m'a tout appris, elle décide de s'en aller. Et je me dis, si elle s'en va, moi aussi, je m'en vais.
Ah, ok.
Donc je m'en vais, alors que je suis qu'adjointe.
Mais tu t'es pas dit que c'était l'occasion de justement de prendre sa place ?
Je l'aurais pas eu. Pas eu parce que j'étais pas assez prête.
Okay.
Et du coup, je me dis, c'est le moment de partir parce que je veux pas avoir un autre responsable qu'elle. Et là, je me découvre très bonne négociatrice de salaire. C'est-à-dire que je fais des entretiens ailleurs et j'arrive vraiment à augmenter mon salaire à chaque fois de 600 balles. Et j'enchaîne des boulots comme ça qui durent 1 an, 2 ans, où à chaque fois, je négocie vachement bien mon salaire.
Tu t'es passé de combien à combien, par exemple ?
Eh ben, je suis passée de 1003 net à 2002 net.
Ah oui.
Il y a 4 ans.
Oui, très belle augmentation pour le coup.
Voilà. Bah, surtout pour ce métier-là, alors que je n'ai pas le BTS MUC, je n'ai rien fait pour avoir ce métier, à part mon expérience. Mais en fait, à chaque fois, j'arrive à me vendre très très bien. Je suis meilleure vendeuse de moi-même que de vendeuse de vêtements. C'est un peu ça. Voilà.
Ok.
Et donc là dernièrement, alors donc il y a 6 ans j'ai déménagé pour Toulouse, donc maintenant je suis à Toulouse, j'ai eu 2 CDI depuis et de plus en plus la frustration de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire de me dire que moi, j'ai mon salaire fixe et qu'en fait, j'ai beau me déchirer au boulot, c'est pas moi qui vais gagner plus, ça va être mon PDG. Et ça, c'était une frustration vraiment très, très grande. Et du coup, ça s'est imposé à moi qu'il fallait absolument que je sois ma propre... que je sois ma propre patronne. J'ai du mal à le dire, mais je le pense très fort. Hein, J'y crois. J'y crois, mais je bégaye.
Ouais, c'est un chemin. Hein,
ouais.
Pour
ouais.
devenir sa propre patronne, comme tu dis. Déjà, c'est dur à dire.
Oui.
Et ta propre patronne. Mais et surtout, ça. Qu'est-ce qui te. Parce que tu vois, je te disais justement tout à l'heure. Est-ce que pour toi, c'est il y a un... après quoi tu cours en fait. Tu vois, quand tu vas chercher ce truc de propre patronne.
La liberté. La liberté de pouvoir faire ce que j'ai envie, autant que j'ai envie, et surtout de m'arrêter pour moi. C'est-à-dire de plus avoir de contre à rendre, dans le sens où parfois j'étais à ma limite, je sentais physique ou mentale, parce que comment les franchises de prêt-à-porter, tout ça, c'est du challenge en permanence.
Oui.
Il y a des moments où on est au bout de craquer, mais en fait, on ne peut pas craquer parce qu'il y a quelqu'un derrière qui nous dit « Non, tu ne craques pas, en fait, il faut que tu tiennes encore 2 semaines. Après, ce sera plus calme. » Là, de me dire que moi, je vais pouvoir sentir dans quel état je suis et je ne devrais rien à personne à part à moi-même. Donc, du coup, m'adapter, plus faire attention à moi, en fait, un peu moins me négliger parce que j'avais tendance à me négliger pour mes boss.
Ok. Et de te dire que tu as aussi ce levier qui est si jamais je gagne plus, ça me tombe dans la poche.
Oui. Alors
mais
oui, ça.
Tu as aussi tous les risques.
Ouais, mais j'ai pas peur.
Ok.
J'ai pas peur des risques parce que je sais que je vais m'adapter. Je vais pas rester bornée sur mon idée si jamais il faut que ça change, que ça évolue un petit peu, que. Je change, s'il faut que je vende des casseroles parce que les vêtements ça marche pas, ça sera des casseroles.
Donc là, tu es en train de monter ta boîte de.
Oui,
un magasin, c'est ça de...
Exactement. Je vais ouvrir un magasin de prêt-à-porter du coup dans Toulouse, dans le centre-ville. Et ça serait de la seconde main, un petit peu sélective, un peu propre. Mais si jamais il faut que ça change parce que ça fonctionne pas, ça changera. Je vais m'adapter.
Tu vendrais des casseroles ?
Je vendrai des casseroles, si.
Sans aucun problème.
Si jamais c'est les casseroles que les gens veulent, je vendrai des casseroles.
Ok. Voilà. Donc en fait, en vrai, t'es une bien meilleure vendeuse que ce que te disait le directeur régional, là.
Oui, en même temps, c'était il y a plus de 15 ans.
Oui.
Donc je me dis, bon, il a le droit de penser ça à l'époque. Et oui, et puis je pense que vendeur, on n'est jamais soit bon vendeur, soit mauvais vendeur. Il y a une palette de vendeurs, plus ou moins bons, on peut toujours s'améliorer.
Et comment t'as la sensation, toi, d'avoir évolué dans ta... dans le fait d'avoir réussi à te vendre de mieux en mieux, toi, en tant que toi.
J'ai une confiance en moi, du coup, professionnelle, qui est au top. C'est-à-dire que vraiment, je sais ce que je vaux au niveau travail, je sais ce que je vaux au niveau valeur monétaire aussi, au niveau de mon salaire. Dans mon dernier boulot, j'ai découvert que j'étais mieux payée que certains hommes qui avaient le même poste que moi. Et ça m'a fait un bien fou. Parce qu'en fait, depuis 15 ans, je suis toujours payée en dessous. Parce que les hommes, je ne sais pas comment ils font, négocient peut-être plus que les femmes ou j'en sais rien. En tout cas, se débrouillent pour être mieux payés. Et la même chose aussi que j'ai remarqué, c'est le nombre d'hommes qui font semblant de travailler.
Ça.
Et à qui on passe tout. Parce qu'ils ont l'air, ils ont le charisme, ils ont tout ce qu'il faut pour faire croire que le boulot est bien fait. Et en fait, rien du tout. C'est du vent, mais ça marche. Et donc, moi, je suis incapable de faire semblant. Du coup, j'ai jamais réussi à égaler cette capacité. Mais quand j'ai vu que, OK, moi, avec le boulot, j'arrive à être mieux payé que quelqu'un qui fait bien le clown, cool.
Ça t'a redoré un peu le...
Ouais, ça fait du bien.
OK.
De se dire, on voit la qualité de mon travail et je suis pas obligée d'être bien habillée, bien maquillée. Moi, le nombre de fois où j'ai eu des réflexions de mes boss qui me disaient, vous êtes enfin féminine, vous êtes habillée comme une femme aujourd'hui.
Waouh.
Et où tu te dis, mais parce que d'habitude, c'est quoi c'est le pantalon est un peu large, ça vous plaît pas?
Tu leur as dit?
Non.
Oui.
Non. tu peux rien dire. Donc, juste t'encaisses, tu fais un sourire et tu fais merci monsieur de remarquer. Alors, je m'en fiche qu'il ait remarqué, j'ai pas fait ça pour lui. Juste ce jour-là, j'ai peut-être détaché mes cheveux plutôt que les attacher, j'en sais rien. Enfin, bref.
Mais ouais. Tu sais, je crois que ça peut être cool de venir leur faire la remarque. à ces boss-là de façon, tu vois, cool, tu vois.
Ouais.
De venir leur dire juste, en fait, vous savez, quand vous dites ça, ça me blesse parce que machin, tu vois.
Ouais.
Et de voir un peu comment il réagit. Parce que ça ouvre une porte. Parce que peut-être, en fait, que le gars, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'il fait ça et qu'il dit ça. Et que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'il a en face de lui des femmes qui... Alors, se mordent la chic, tu vois, en se disant, ok, mais bah, les temps sont en train de changer, en fait, tu vois. Il est temps de pas hésiter à... Alors après, je dis
ça... À dire les choses, ouais.
Bah, en fait, je dis ça, c'est pas pour... pas d'injonction, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est dur pour un manager d'évoluer tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire, bah, en fait, là, tu vois, ce que tu es en train de me dire, c'est de la merde. Et moi, en tant que manager, j'ai eu la chance de croiser des gens en face de moi, et des femmes et des jeunes femmes, tu vois, qui, quand je disais de la merde, me disaient, alors en fait, tu vois, c'est nul ce que tu es en train de dire, parce que ceci, ceci. Et j'étais là, ok, cool. Après, moi, en tant que personne, de savoir est-ce que je le fais ou pas, tu vois,
oui.
Ou alors est-ce que je passe du principe que, non, tu es une meuf et t'as... En gros, ta parole ne vaut rien, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, peut-être, je ne sais pas, tu vois, de tenter la chance.
Alors, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça dépend de qui t'as en face de toi.
Je suis très d'accord. Je
dis ça. Il faut avoir quelqu'un d'un peu ouvert d'esprit.
Ça, je jette une pierre dans ton jardin, tu vois. Je me rends bien compte que ce n'est pas aussi simple.
Il y a autre chose, c'est qu'aussi, quand tu es dans une relation professionnelle, tu as déjà plein de fois où tu as l'occasion de dire « Non, là, c'est de la merde, professionnellement parlant. » Ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Si en plus, tu rajoutes entre les deux « c'est de la merde
ah, »
son
oui.
comportement avec les femmes,
ouais.
En fait, ça fait beaucoup râleuse. Donc, tu sélectionnes sur quoi tu râles ouais, et comprends. Tu dis « Finalement, il faut que je râle pour du pro, je ne peux pas râler pour l'éduquer, c'est pas possible. » quoi. Ça serait trop, en fait.
Oui, je sens d'un coup d'un seul, quand tu me dis ça, la chape de plomb qui te tombe dessus.
Il y a trop de choses à changer, donc
qui vous tombe,
on priorise.
Qui vous tombe à vous sur, les
ouais, c'est
sur
ça.
Le dos des femmes depuis des plombs.
Bah,
des
on fait avec. Hein. Il y a des choses plus ou moins graves, je sais qu'il faudrait se rebeller contre tout. Mais
non, bon. Pas... Puis en plus, je ne parle même pas de rébellion. Tu vois, pour le coup, c'est quand je... Tu vois, quand...
Juste s'exprimer, ouais.
Ouais, juste le dire.
Il y a une anecdote intéressante là-dessus, justement dans mon dernier boulot.
Ouais.
On a eu pendant un an un directeur général qui est arrivé qu'on ne connaissait pas avant. Il arrive dans la boîte, moi il me sauve. Parce que vraiment c'est un homme incroyable. Il a tout changé dans la boîte et c'est devenu génial de travailler avec lui, de travailler avec une personne comme ça. Il était inspirant. Et... Ce mec-là s'est fait dégager quand la boîte a été revendue. J'ai rencontré les autres responsables de magasins de la région. Ils étaient tous, ils avaient tous une image très négative de lui, comme quoi c'était un misogyne,
okay.
Que dans sa façon de parler aux femmes, il n'était pas terrible, que dans sa façon de s'asseoir. Et en fait, on avait tous des grands bureaux, et c'est vrai qu'il s'asseyait sur des tabourets où il écartait un peu les jambes.
Ouais.
Et en fait, moi, je me disais, il est juste à l'aise. Ce qui serait gênant, c'est s'il était à côté de moi et qu'il écartait et qu'il m'empêchait moi de prendre ma place. Mais si j'ai ma place, qu'il a la sienne et qu'il a envie d'écarter les jambes, pourquoi pas ? Bon, ça ne me dérange pas. Et en fait, je me dis, c'est fou à quel point maintenant, on est accroché à des petits détails en se disant, ah, là, lui, il prend une place par rapport aux femmes, il essaie de prendre une place plus importante, alors qu'en fait, il n'y a peut-être rien. Et moi, ce mec-là, justement, j'ai trouvé que c'était la personne qui m'avait le plus respecté dans le monde du travail depuis le début.
Waouh. Donc, comme quoi, tout est une question de perception.
Exactement. Et puis, il faut se dire que c'est bien d'être attentif, de ne pas se faire bouffer, de ne pas se faire mettre à une place qu'on ne mérite pas. Mais il faut aussi se dire, attends, le mec est dans son coin, il a 5 mètres de moi. S'il prend un peu d'espace, ce n'est pas grave.
Mmh.
En tout cas, pour moi, ça ne me paraissait pas du tout être une attaque.
C'est ta perception.
Voilà, c'est ça.
Et c'est pour ça que ce n'est pas simple. C'est qu'en fait, il y a autant de perceptions qu'il y a de gens.
Oui, exactement.
Mais pour revenir à l'argent, et j'imagine que c'est lié tout ça, tu me disais tout à l'heure que, et je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais tu vas me dire, que l'un des déclics aussi qui t'a permis de pouvoir te lancer dans cette aventure entrepreneuriale que tu es en train de démarrer,
ouais.
C'est le fait de t'être séparé.
Alors, je ne pensais pas que ça aurait cet impact-là. En fait, ça fait un an que j'ai terminé mon CDI et un an que je suis sur ce projet. Et par hasard, mon couple s'est terminé là en octobre. Donc, ça fait...
4 mois.
4 mois, ouais, c'est ça. Ça fait 4 mois que ça s'est terminé. J'étais pendant toute cette période-là en train de créer mon dossier. Donc c'est forcément, je suis à la maison devant mon ordinateur et j'écris ma description du projet, comment je l'imagine, qu'est-ce que je vais vendre, à quel prix, etc. Je suis dans les tableaux Excel. Sauf que il faut en même temps que je nettoie l'appart, je prépare à manger pour quand monsieur va rentrer. Et puis le soir, il faut être disponible pour lui parce qu'on est amoureux et parce qu'il faut passer du temps ensemble. Et en fait, les semaines passent et j'avance pas du tout. Et je me dis, à ce rythme-là, il me faudrait un coup de pied aux fesses ou que tout d'un coup, je trouve le local de mes rêves pour que ça me booste et que je fasse plus que ça. Mais j'arrive pas à travailler quand il est là. Et même quand il est pas là, j'arrivais pas. Par hasard, je me rends compte qu'après la séparation, je travaille super bien. Mais vraiment, je travaille 10 heures de suite. Tout d'un coup, plus rien pendant 3 jours. Et puis à un moment, en pleine nuit, je me dis, là, j'ai envie de faire ça. Et hop, je rallume toutes les lumières, je travaille. Et il n'y a personne pour me dire quelle heure il est, qu'il faut que je mange, qu'il faut que je dorme, qu'il faut... Il n'y a plus personne pour faire des commentaires, en fait. Et je pense qu'en couple, moi, j'ai vachement de mal avec les commentaires. Et pareil, quand j'étais avec lui, tous les soirs, il me demandait « Alors, t'as fait quoi aujourd'hui ?» Au lieu de me dire « Qu'est-ce que t'as envie de me raconter ?» ou « Quoi de neuf ?» Il me disait « Est-ce que t'as fait ci ? Est-ce que t'as fait ça ? Est-ce que t'as travaillé ? Est-ce que t'as appelé des gens ?» Est-ce que... En fait, il avait des questions ciblées qui faisaient qu'il fallait que j'ai fait ce qu'il pensait qui était le mieux.
Plutôt que de te laisser la porte ouverte.
Voilà. Okay. Et comme je suis un peu une sauvage et que je suis un peu en rébellion... Moi, mon truc, je pense, au fond, c'était de dire « Bah non, j'ai pas fait ça. Et alors ?» Et du coup, c'était « T'as bossé aujourd'hui ?»« Bah non, pourquoi ?» Je sais très bien, au fond de moi, que c'est pour moi que je le fais.
C'est ta vie à la fin, hein. Oui,
voilà,
c'est sûr.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, par esprit de « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai pas fait. Et alors ?» C'est « Ah oui, bon, bah c'est pas grave, tu feras demain. » »« Bah non, peut-être pas. » Et voilà, le côté un peu adolescente en crise qui est revenu là à 30 ans. Bon, bref.
Un peu... Est-ce qu'il n'avait pas le rôle de ton papa ?
Tu
me rends compte ?
Non. Okay. Non, mon père n'était pas comme ça. Moi, mon père, il a... Là, récemment, par exemple, je lui ai parlé de mon projet à mon père et je lui ai fait part un petit peu de mes peurs, de mes craintes, parce que forcément, monter sa boîte, c'est prendre des risques. Et du coup, des risques, bah, y a des peurs que ce soit l'échec, que ce soit un endettement à vie, j'en sais rien. Voilà. Je lui dis pourquoi... Alors, lui me dit, j'ai l'impression que tu n'avances pas très vite sur ton dossier. Et moi, je lui dis non, forcément, parce qu'en fait, j'ai un peu des peurs. Du coup, ça me ralentit un peu, mais j'avance quand même. Il me dit, ah bon, mais quelles sont ces peurs ? Et je dis, ouh, j'ai pas envie d'en parler, parce que j'ai pas envie d'avoir des conseils, j'ai pas besoin de votre avis, juste j'ai des peurs. Et ma belle-mère qui me dit, mais Lucie, tu sais, les peurs, ça soulage quand on en parle. Alors, je me dis, ok, mais je demande rien. Juste, je vais vous communiquer mes peurs, mais je ne demande rien derrière.
Tu l'as, t'as dit ça.
Voilà.
Okay.
Je dis mes peurs, et là, mon père me dit, ah non, mais faut tout arrêter, là. Ça va pas du tout, hein. Ah non, mais ton projet, ça tient pas, là. Si t'as des peurs comme ça, le fais pas, hein. Alors, je me dis, comment ? Alors, déjà, j'avais rien demandé,
ouais.
Je le rappelle. Et deuxièmement, mais pourquoi être aussi négatif ? Et sur le moment, moi, ça a été un gros blocage pour moi, mais on en a parlé plus tard. En fait, lui voulait que je le rassure sur ma capacité à aller au-delà de mes peurs. Alors que moi, je voulais soit de la neutralité, soit de l'encouragement. Mais surtout pas du découragement.
Ouais.
Et en fait, on ne s'est pas compris. Et sur ce truc-là, on est un peu bloqué. Là, ça fait, c'était à Noël, donc ça fait 2 mois que c'est un petit peu froid. Je ne lui en parle plus trop parce que j'ai peur de ses réactions. Et que je me dis que je n'ai pas besoin d'être soutenue. Mais il ne faut pas non plus mettre des bâtons dans les roues. Je suis toute seule à faire mon projet, là. J'ai personne à qui raconter maintenant le soir où j'en suis, comment j'avance. Alors j'en parle un peu aux copines, j'essaie de pas embêter tout le monde, mais c'est vrai que pendant toute ma relation avec mon ex, là, tous les soirs, je racontais quoi de neuf. Là, il n'y a plus personne pour me demander « t'as fait quoi aujourd'hui ?» Donc je me sens un peu seule, j'essaie de trouver la force en moi, et j'ai pas besoin qu'on me pousse vers le bas, quoi.
Ok, je comprends.
Alors j'ai pas besoin non plus qu'on m'encourage, mais juste la neutralité, ça me va.
Tu m'as précisé dans ton mail que tu venais d'une famille métissée.
Oui.
Et je ne sais pas si ça avait un impact particulier dans ton histoire. J'imagine dans ton histoire que oui, mais dans ton rapport à l'argent.
Je pense, alors dans mon rapport à l'argent, pas tellement, mais je pense que ça a un lien avec la façon dont mon père a toujours d'ailleurs, le rapport à l'argent qu'a mon père, en fait. Donc mon père est d'origine du Moyen-Orient. D'un pays dans lequel on envoie les gens faire leurs études en France, puis ils y retournent après pour faire un métier un peu intellectuel dans le pays. Et bon, une bonne chose, c'est que mon père est resté pour pouvoir me faire, hein, et mon frère avec. Mais du coup, donc, il est resté en France, il a fait ses études comme ça, mais c'était hyper important pour lui d'être ingénieur, de gagner de l'argent, d'avoir cette facilité-là, je pense, parce qu'il vient d'un pays dans lequel il y a, de ce que j'ai compris, pas trop de classe moyenne. Soit t'es très pauvre, soit t'es riche. Et du coup, comme il était dans la partie des riches, il fallait maintenir ce truc-là. Et voilà, donc non, c'était ce côté métissé. Pour moi, c'était plus pour expliquer le caractère de mon père, qui est de dire peu, de surtout montrer, mais de dire peu, et d'avoir ce côté fierté qui n'est pas dit clairement, mais il faut qu'elle soit là, il faut qu'il soit fier. Et en même temps, alors c'est très marrant, mais il est très accroché aux mots, vu qu'il a appris le français, c'est pas sa langue maternelle. Oui. Et la fierté, pour lui, c'est quelque chose de négatif. On est allé voir dans le dictionnaire et c'est vrai que c'est négatif comme mot. Être fier de quelqu'un, c'est péjoratif. C'est un peu un truc bizarre, pas beau. Alors, je me souviens plus de la définition exacte.
Mais il y a un truc qui est gothique, c'est ça, qui vient de toi, que tu projettes sur quelqu'un, c'est ça ?
Exactement. Être fier de son enfant, c'est pas quelque chose de joli. Et du coup, moi, j'ai toujours dit à mon père, mais tu m'as jamais dit que tu étais fier de moi. Il m'a dit, mais je peux te le dire, mais c'est pas terrible. Je préfère dire que je te trouve courageuse, que t'es une fille intelligente, que je suis content de ta situation, mais dire que je suis fière de toi, ça me dérange comme si on mangeait un plat pas bon, quoi. Voilà. C'est manger, mais c'est pas bon. C'est... voilà.
Ok.
Et donc ça, je pense que ça vient de ses origines, ouais.
Ok.
Le fait de savoir, en fait, la langue française, il sait presque mieux que nous ce que c'est. Voilà.
Et donc, tu disais, lui-même a grandi dans une famille riche ?
Oui,
du coup. En tout cas, dans le pays dans lequel il vient, c'est ça ?
De ce que j'ai compris, oui, il n'y avait pas de souci. En tout cas, dans le pays lui-même, mes grands-parents avaient une cuisinière, avaient un chauffeur, avaient ce genre de choses. Donc oui, ça a toujours été... ça n'a pas été un sujet, l'argent, j'ai l'impression.
Ok.
Mais c'est très vague, parce qu'en fait, il en parle très peu, donc j'ai peu d'infos. Mais en tout cas, bon, le plus important, finalement, c'est le ressenti que j'en ai moi maintenant.
Bien sûr.
C'est que l'argent n'a pas été un problème dans la famille de mon père depuis toujours, j'ai l'impression.
Et tu as eu cette discussion avec lui à propos de l'argent, justement, parce que, tu vois, quand tu parles de la création de ta boîte, etc., de la création de ta boutique, est-ce qu'à un moment donné, l'argent vient dans la discussion ?
Un petit peu, parce que pour mon apport personnel, je suis aidée par ma maman et par mon papa. Mais au niveau de l'argent en général, on n'en parle pas trop parce que j'ai l'impression qu'il y a un gouffre qu'on ne peut pas se comprendre. Il y a des périodes où j'ai été au chômage dans la vie, par exemple, où j'avais besoin de peut-être 100 ou 200 euros de plus. Et mon père me dit « Mais comment tu te débrouilles ? C'est rien, 200 balles !» J'ai « Ouais, mais en fait, quand tu reçois le chômage... 200 balles, c'est énorme comme pourcentage du chômage.
Bien sûr.
Et mais pour lui, c'était fais tes comptes, comment tu te débrouilles ? Et donc, je me suis dit à cette période-là, OK, on ne pourra pas se comprendre parce que, en fait, pour lui, un resto à 60 euros ou un resto à 40 euros, c'est pareil. Pour moi, un resto, déjà, c'est quoi ? On va au resto, OK. Bon, une fois par mois, hein, pas plus. Donc, voilà, il y a un... C'est comme un dialogue sur un sujet où on n'est pas d'accord.
Et tu voudrais pas lui demander de t'apprendre ?
De Parce m'apprendre que, quoi ?
Bah pour moi, c'est un peu ce qui manque d'une manière générale, c'est de l'éducation financière au sein des familles.
Ouais,
et
d'accord.
Et ton père, tu vois, quand il vient te dire bah, comment tu fais, comment tu gères ton budget, genre fais ton budget, bah, si on t'a pas appris à faire un budget déjà, c'est compliqué. Est-ce que tes darons t'ont appris à faire un budget ?
Non, je me suis renseignée moi-même.
Oui.
En fait, quand j'ai commencé à habiter à Paris, j'avais donc mon appart et je faisais mes études d'optique. Mon père me donnait 1000 euros par mois. Il fallait que dedans, tout rentre. Et du coup, j'ai commencé à faire mes comptes en m'intéressant. Alors, je suis allée voir sur Internet, je suis allée lire des bouquins, etc. sur comment faire un tableau de compte, voir où va mon argent à la fin du mois, où est-ce qu'il y en a trop, où est-ce qu'il n'y en a pas assez, etc. Et j'ai fait mes comptes comme ça pendant une dizaine d'années, vraiment à l'euro près. Voilà.
Et t'as appris toute seule.
J'ai appris toute seule, ouais.
Mmh. Et aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure que l'une de tes galères, entre guillemets, ça va pas être de gérer ta boutique, parce que ça, tu l'as fait pendant des années que tu sais faire.
Ouais, j'ai les compétences
pour ça. C'est plutôt l'aspect paperasse. Et sans doute aussi la gestion qu'il y a derrière, ou ça pour le coup ça va?
Alors la gestion, bah, je vais avoir un comptable qui va s'occuper de tout après, donc ça sera réglé. Mais c'est là, oui, toute la période qui est de trouver un local, faire une proposition d'achat, créer une société, s'intéresser à tous les petits détails de c'est quoi un BFR, c'est quoi une rentabilité, c'est quoi ce genre de choses, faire des tableaux Excel dans tous les sens, tout ça. Pour moi, c'est très stressant. Déjà parce qu'au départ, avant de le faire, j'ai l'impression que je ne vais pas être capable. Une fois que là, maintenant, c'est fait, je me rends compte qu'en fait, bah, si, ce n'était pas la mer à boire, mais on a plus peur que... Voilà, bon, le fait de le faire, ça rassure.
Mais déjà, tu es allé chercher un comptable, ce qui est déjà un vrai truc.
Je n'ai pas le choix, parce qu'il me faut un expert comptable à la fin.
Il te faut un expert comptable.
Ouais, à l'année. Et du coup, je me dis, tant qu'à faire, on va prendre un comptable à l'année qui s'occupe de moi.
Okay.
Voilà. Mais... Oui, par exemple, là, je dois chercher un avocat ou une avocate pour le bail commercial.
Mmh.
Et ça, c'est un truc qui m'effraie totalement. Parce que je ne connais pas ce monde-là. Je n'ai jamais eu affaire à un avocat ou à un notaire. Voilà, c'est des trucs... Donc, en ce moment, on est dans le plus dur. Une fois que je serai lancée, ça sera, oui, le plus simple pour moi, parce que c'est de la vente, de la communication, tout ça. Et c'est ce dans quoi je suis bonne.
OK. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler à propos de l'argent ?
J'ai depuis ça fait un moment, je crois que depuis que j'ai 20 ans ou un truc comme ça, j'ai une meilleure amie qui a eu toujours des galères d'argent dans sa vie, qui habite alors elle habite dans le 91, elle est avec son chien toute seule tout le temps, elle a là en ce moment elle bosse, mais on a eu des périodes de chômage en même temps, et il y avait un côté chez nous de on a des galères d'argent et c'est normal. Genre comme si on le méritait.
Mmh.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on avait un truc qui casse, qu'il faut racheter, ou le chômage qui n'a pas envoyé l'argent au bon moment, ou alors, on nous a oublié 200 euros sur notre paye. Bah oui, c'est normal, parce qu'on a toujours des galères. C'est nous, on est comme ça. Et je sais que j'ai les moments dans ma vie où je gagne un peu bien ma vie, et bah, j'ai toujours ce truc de ouais, « qu'est-ce qui se passe ? C'est pas moi, ça. Moi, je suis censée galérer. » En fait, donc voilà, il y a ce côté-là aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'elle, elle est encore dans cet état d'esprit, alors que pourtant, elle a son boulot depuis plusieurs années maintenant, mais elle gagne vraiment pas beaucoup. Et il y a toujours cet état d'esprit, cette petite voix dans ma tête, où à chaque fois que j'ai, par exemple, une amende pour excès de vitesse ou de stationnement, on va dire plutôt, un truc électroménager qui pète et il faut en racheter un nouveau, je me dis, bah ouais, normal. C'est moi, j'ai toujours des galères. Jamais je m'en sortirai. Alors que la vie m'a prouvé que si, il y a des moments où je m'en sors. Mais oui, j'ai un peu ce truc-là.
C'est horrible, hein, parce que c'est une coach une fois qui m'a expliqué ça, ce fameux truc qui s'appelle le cercle auto-validant. C'est-à-dire que tu pars d'une croyance limitante,
ouais,
qui est bah, en fait, je galère avec l'argent.
Mm.
Et en fait, à partir de cette croyance limitante, tu vas prendre des décisions qui vont forcément t'amener à valider en permanence ta croyance, et à la fin de finir par dire « Tu vois, j'avais raison. »
Exactement, c'est ça.
Donc par exemple, tiens, je galère avec l'argent. Bah, de ce fait-là, tu vas te dire « En fait, comme je galère avec l'argent, ça veut dire que je ne vaux pas beaucoup.
Ouais. »
Tu ne vas pas forcément aller négocier ton salaire. De ce fait-là, tu vas te dire « Bon, bah voilà. » Tu vas te rendre compte que peut-être le gars d'à côté ou la meuf d'à côté, elle gagne plus que toi. Et tu vas dire « Eh bah voilà. » Parce qu'en fait, bah, moi, je galère avec l'argent. Et en fait, tu finis par créer une boucle comme ça, parce qu'il t'arrive des merdes, et de ce fait-là, t'as pas l'argent pour les payer.
Ouais.
Et puis après, tu dis, bah, et voilà, je galère avec l'argent. C'est super dur d'en sortir, mais une fois que t'en prends conscience, je trouve ça assez fou, quoi. Et ta pote, elle est encore là-dedans, alors ?
Elle est encore un peu là-dedans, ouais. Mais j'espère qu'elle va, elle aussi, augmenter dans son niveau de vie. Mais...
C'est Christian Junot qui dit, il faut aimer l'argent.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ?
Eh ben, ça me fait penser que, justement, j'ai remarqué les périodes où j'étais pauvre, je dépensais jusqu'au dernier centime, voire même plus. Alors que les périodes où je suis riche, entre guillemets, je dépense pas. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de quand on est pauvre, de profiter au maximum jusqu'au dernier centime de ce qu'on a. Alors que quand on a l'argent, on se dit « Ah bah non, on va le garder pour les vacances. » Quand t'es pauvre, tu penses même pas à partir en vacances. Et donc, ça me fait penser à ça. À ce côté, en fait, de gestion, de manque, je pense, que quand tu es dans le manque, en fait, tu en manques encore plus. Comme une augmentation de ta pauvreté et une augmentation de ta richesse si tu dépenses moins. Plus tu es riche, plus tu es riche, plus tu es pauvre, plus tu es pauvre.
C'est un peu caricatural, mais je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est Christian, je cite beaucoup, mais on a refait un épisode il y a quelques mois,
ouais,
où il me disait, mais en fait, vous n'avez pas de problème d'argent. Là, maintenant, quand vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous n'avez pas de problème d'argent.
D'accord.
Parce que, sauf si vous êtes dans la rue et que vous êtes sous un pont, là, effectivement, vous avez sans doute des problèmes d'argent, mais vous n'êtes sans doute pas en train d'écouter ce podcast.
Mm.
Mais normalement, si vous écoutez ce podcast, normalement, vous n'avez pas de problème d'argent.
Ouais. Oui, c'est un état d'esprit, c'est un point de vue, en fait. Il faut se mettre dans le bon point de vue.
Et je sais que ça peut paraître, un peu autoprophétie, tu vois, de venir dire, ou un peu mystique, tu vois, ou les gens qui vont dire, non, ben, en fait, moi, je galère. Mais je trouve ça hyper intéressant de juste revenir à un truc de... En fait, si tu regardes bien, est-ce que vraiment cette prise de tête que tu as là, elle t'occupe sans doute beaucoup, beaucoup d'esprit, quoi.
Ouais.
J'en sais rien.
Et puis, il faut aussi relativiser par rapport aux autres qui sont dans une situation, peut-être justement, se dire, attends, j'ai des problèmes d'argent, mais je ne suis pas sous un pont,
on est
je
tous
mange.
Le riche de quelqu'un.
Bien sûr, c'est
et
ça.
Et tous le pauvre de quelqu'un.
Exactement.
Tu avais d'autres choses à ajouter, Lucie ?
C'est bon pour moi.
Et ben, en tout cas, je te souhaite plein de force pour,
merci beaucoup.
Pour la création de ce projet.
C'est gentil, ouais.
Et puis, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce petit message.
Avec plaisir, j'ai passé un super moment.
Trop cool ! Merci.